une ville, une campagne. De loin, c'est une ville et une campagne. Mais à mesure qu'on s'approche, ce sont des maisons, des arbres, des tuiles, des feuilles, des herbes, des fourmis, des gens de fourmis, à l'infini. Tout cela s'enveloppe sous le nom de campagne. Pascal, Pensée, 1670.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Aligre FM 93.1. Merci Armand pour les soutiens et la technique. Nous sommes en direct ce samedi 9 mai à 16h pour une nouvelle édition de Philosophie Opérations, l'émission du Collège international de philosophie qui explore notre monde avec les outils de la pensée critique et parfois avec un petit accent italien. Je m'appelle Laura Moscarelli.
Et moi, c'est Lorena Grigoletto.
Nous sommes toutes les deux directrices des programmes au Collège international de philosophie. Moi, je suis docteur en philosophie, spécialiste de la pensée grecque ancienne et des questions politiques. Mon travail ces dernières années s'est particulièrement concentré sur ce qu'on appelle la décolonisation de la pensée, c'est-à-dire comment repenser nos héritages philosophiques pour en faire des outils émancipateurs et plus jamais des instruments de domination. Et toi, Lorena?
Oui, moi je suis aussi philosophe, je m'occupe de l'esthétique, d'art, en particulier dans les champs de la pensée espagnole et latino-américaine, récemment avec un focus sur la représentation de la nature dans le rapport avec l'imaginaire postcolonial et sur la pensée aztèque. Et aujourd'hui, avec Laura, nous consacrons cette émission de Philosophie au présent à la ville contemporaine à partir de ses marges humaines et non humaines, de ses tensions internes et de ses espaces visibles et invisibles qu'elles produisent. Car une ville, comme l'écrit Pascal, est d'abord un homme, mais à mesure qu'on s'en approche, elle devient une infinité de lieux, de temps, de discours, d'acteurs humains et non humains. Et justement, pour explorer tout cela, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités, Christian Voller, philosophe qui travaille dans l'intersection entre esthétique et politique, dont les recherches portent sur les rapports entre espace politique, espace public et démocratie, et sur la façon dont les quartiers populaires redéfinissent la relation entre centre et marge. Bonjour Christian et bienvenue.
Bonjour.
Et Emmanuelle Sibed, historienne, spécialiste des questions coloniales et postcoloniales. Elle travaille notamment sur la manière dont l'histoire coloniale continue d'imprégner nos villes, à travers les monuments, les noms de rues, mais aussi les inégalités spatiales. Bonjour Emmanuelle et bienvenue.
Bonjour.
Avec nos deux invités, dont nous allons présenter les parcours et les travaux un petit peu plus tard dans l'émission, nous explorerons la ville en tant qu'espace vivant, conflictuel et profondément politique. En ville, centre, marge, interstice. Ce titre, nous l'avons choisi pour évoquer les tensions qui traversent nos espaces urbains. Le centre, ou mieux, les centres au pluriel, ces lieux de pouvoir, de visibilité, souvent gentrifiés, où se concentrent les ressources et les regards. Les marges, ces quartiers relégués, voire stigmatisés, mais aussi ces territoires de solidarité et d'invention. Et puis il y a les interstices, ces espaces résiduels, ces angles morts de la ville, ces friches, ces terrains vagues, ces lieux qui échappent aux logiques de contrôle et de marchandisation.
La question qui se pose est alors comment parler de la ville et de ces espaces, des savoirs, des marges, des interstices, d'un point de vue philosophique. Peut-être que pour le faire, et ça c'est une question mais aussi une provocation, c'est la philosophie elle-même qui doit se déplacer, se mettre aux marges, s'y tenir, les explorer et peut-être se repenser à partir d'elle, comme sur son propre seuil. D'ailleurs, marge de la philosophie, c'est aussi le titre d'un texte de Jacques Derrida, philosophe très important du XXe siècle, mais aussi figure très importante pour les collèges internationaux de philosophie, qui interroge précisément les limites de la philosophie. Car si la philosophie a toujours cherché à maîtriser la limite, il faut alors, comme l'écrit justement Derrida, que sa propre limite, la limite propre à la philosophie, ne lui reste pas étrangère. La philosophie s'en est donc emparée, pensant pouvoir en maîtriser la marge et penser sans l'autre. Mais, et ça c'est une question, est-ce qu'il existe pour la philosophie une autre manière d'habiter les marges? Je pense notamment à ce que Christian Voller appelle une philosophie de terrain et qu'on va introduire dans quelques instants.
démarche à la ville en tant que miroir grossissant de nos sociétés. L'agora athénienne, je pense à l'agora athénienne, cœur battant de la démocratie, est aussi un miroir de ses exclusions, un espace où la parole libérait les citoyens, mais tout en reléguant les femmes, les esclaves et les étrangers dans l'ombre des marges. Le cosmos des présocratiques, cet orbe d'ordre harmonieux, ne se comprend qu'en dialogue avec son dehors, les chaos, les limités, ces marges où tout se joue entre équilibre et subversion. La ville révèle nos inégalités, nos conflits, mais aussi nos capacités à inventer des alternatives. Car, comme le dit Belloux dans Éloge de Marx, des marges, Éloge des marges, ouvrage paru en 1984, les marges ne sont pas seulement des lieux d'exclusion, mais aussi des espaces de résistance et de création. Belloux dit que c'est depuis ces positions marginalisées, raciales, genrées, classistes, que l'on peut voir, critiquer et transformer les structures de domination. Les marges deviennent ainsi un lieu de liberté où s'inventent de nouvelles formes de savoir, de solidarité et de subjectivité loin des normes hégémoniques. Nous verrons, dans la seconde partie de notre mission avec Emmanuel Sibed, comment l'espace urbain qui conserve les stigmates du colonialisme à travers des traces tangibles comme les noms des rues, les statues, les monuments et plus généralement les inégalités spatiales perpétue des hiérarchies sociales et raciales. Et parallèlement, comment la ville peut aussi être un terrain propice à la réflexion collective et à la remise en question des récits dominants et de la mémoire collective. Bref, la ville est un champ de bataille, mais aussi un terrain de jeu pour repenser notre vivre ensemble. Alors, installez-vous bien, prenez une tasse de café ou de thé et embarquez avec nous pour une balade philosophique en ville.
Christian, on va commencer avec toi. Tu es philosophe, chercheuse associée au Centre de recherche sur le travail et le développement de CNAM et au Laboratoire du changement social et politique de l'Université Paris-Cité et fellow de l'Institut Convergence Migration. Ton travail porte surtout sur la philosophie esthétique et la philosophie politique, migration, revendication, violence policière, quartier populaire. Tu es autrice de plusieurs œuvres, beaucoup d'œuvres. Humanitaire, Le cœur de la guerre, 2007. Distance ludique, distance critique, 2022. Et cela, ça m'intéresse beaucoup. Peut-être qu'on va revenir sur ça. Tu as aussi travaillé en collaboration avec le photographe Philippe Bazin. Le milieu de nulle part, 2012. Et Vidé-Calais, 2019. Sont les fruits de ce travail engagé et visuel aussi. Or, comme je le disais avant, depuis quelques années, tu as théorisé un très beau concept, celui de la philosophie de terrain, qui inspire, ou bien je dirais informe même ton travail actuel. Et en effet, dans ce cadre, tu as été conseillère scientifique du cycle en philosophie sur le terrain, organisé par la BPI du Centre Pompidou à Paris 2024, en partenariat avec les Centres Wallonie-Bruxelles. Mais tu as aussi publié des œuvres sur cet aspect. Je pense à Pour une philosophie de terrain, des philosophes sur les terrains, ou encore Politique de la représentation 1999-2025, qui associe philosophie de terrain et photographie documentaire critique. C'est toujours en collaboration avec le photographe Philippe Bazin. Il s'agit vraiment d'une trajectoire dans laquelle philosophie, engagement politique et discours artistique et visuel s'entrelacent. Or, le terrain, ce concept m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce que l'essence spécifique de ce mot, comment vous l'entendez? Car il s'agit d'un mot bien enraciné dans le vocabulaire soit de l'ethnologie et de l'anthropologie. Les ethnologues désignent avec ce mot le terrain où ils se rendent pour observer la vie d'une société et recueillir sur elle des informations directement fournies par les intéressés eux-mêmes. Et dans ce sens, la situation ethnographique, c'est la situation de terrain, c'est-à-dire son laboratoire. Et cela implique aussi la présence constante de chercheurs sur son terrain, c'est-à-dire l'observation, l'expérience, l'engagement sur le terrain. Alors, comment concilier cette attitude, que peut-être le mot terrain implique, avec la distance, l'impartialité qui en quelque sorte évoque la réflexion philosophique. Ou peut-être s'agit-il, cette formule, philosophie de terrain, s'inscrit dans les réflexions de Gilles Deleuze, et je pense notamment au concept des territorialisations et réterritorialisations.
Merci Lorena et merci à toutes les deux pour l'invitation et merci pour cette présentation. Pour ce qui concerne la question du terrain, je dirais d'abord que c'est originellement un terme militaire. Et c'est un des paradoxes en fait du travail qu'on fait, c'est ce qui désigne justement, ce qui va opposer l'état-major à la présence sur le terrain. Autrement dit, ceux qui décident des stratégies à ceux qui sont sur place et en train de vivre finalement l'affrontement à l'ennemi. Donc à l'origine en fait, c'est ça, et quand le terme se crée au XVIIe, c'est de ça qu'il s'agit. Et puis ce terme sera repris dans les sciences sociales. Et il sera repris cette fois pour traiter de la question de l'opposition entre finalement un travail de bureau ou de laboratoire et un travail effectivement de présence, et en particulier dans l'ethnographie. Alors, il y a un problème qui va se poser de toute manière par rapport à ça, c'est-à-dire que du coup, cette présence sur le terrain, elle appartient aussi à une histoire coloniale. L'histoire de l'ethnographie, l'histoire de l'anthropologie, c'est originellement une histoire coloniale. Et quelque part, l'histoire de la sociologie est aussi une histoire de surplomb de classe, comme on le voit en particulier avec la première école de Chicago, l'école de sociologie, avec Robert Parks en particulier, qui va être aussi une question de race, lorsque l'école de Chicago va travailler sur cette question du terrain. Ce sera justement après les émeutes de Chicago, après 2019, et auprès des populations noires, ghettoisées, et pour finalement, quelque part, accréditer un concept du ghetto. Et donc là, on a déjà une manière dont les chercheurs, finalement, peuvent se rendre complices de surplomb de classe ou de race. Donc voilà, le terme de terrain n'est pas forcément originellement un terme très pur, c'est même un terme extrêmement impur, idéologiquement, pourrait-on dire. Et c'est un terme donc pour lequel il faudra différentes manières de se le réapproprier. En tout cas, c'est un terme qui, en philo, est quasiment absent. Voilà, donc tu parles de Deleuze, mais donc on est quand même dans la deuxième moitié du XXe siècle. Oui. Et originellement, il y a une absence de cette question du terrain en philosophie. Peut-être qu'on peut dire que celui qui va, au XXe siècle en tout cas, commencer à s'en inquiéter, il s'agit d'une inquiétude, c'est Sartre. Sartre, lorsque en particulier il va publier les textes qui vont figurer finalement dans « Situation », s'inquiète de cette question du terrain. Mais on peut dire que, en revanche, du côté des sociologues, beaucoup de sociologues, en fait, et même l'un des plus importants, Durkheim, n'en est venu à la question du terrain qu'à partir de la philosophie. Et donc, c'est précisément parce que les sociologues ont estimé insuffisantes les réponses de la philosophie à leurs questions, alors même qu'ils étaient philosophes, ils ont décidé de faire du terrain et donc de quitter la philosophie. Donc quelque part, quitter la philosophie était la condition pour faire du terrain. C'est le cas pour Durkheim, quand il fonde la sociologie en France. C'est le cas pour Bourdieu. Et Bourdieu, c'est précisément la guerre d'Algérie et son expérience de la guerre d'Algérie qui est à l'origine de la manière dont il va quitter la philosophie pour se consacrer à la sociologie. Donc, on est là dans quelque chose qui, à la fois originellement, interroge ce qu'est un terrain, mais aussi, dans le rapport à la philosophie, interroge la manière dont le terrain a été précisément ce qui a servi de repoussoir à la philosophie pendant très longtemps. Et actuellement, par exemple, même quelqu'un comme Descola est quelqu'un qui était philosophe à l'origine et qui a quitté la philosophie pour faire du terrain en anthropo. Michel Agier, lui aussi, a commencé par la philo. Mais, à partir des années 2010, et c'est effectivement en France, en tout cas, c'est un petit peu avec, en partie, mon impulsion, mais pas seulement, parce qu'on est plusieurs à s'être engouffrés, finalement, dans cette brèche. On a ouvert une brèche. Et on a ouvert une brèche au sein de la philo. Mais en ouvrant cette brèche au sein de la philo, on a aussi questionné le rapport à l'anthropologie, la manière dont l'anthropologie elle-même, ou la sociologie, ou l'ethnographie, envisage la question du terrain. Donc c'est toutes ces configurations extrêmement multiples qui créent en fait entre nous beaucoup de transdisciplinarité. Ça, c'est extrêmement important. Tu citais Derrida, tu citais Deleuze, à juste titre, mais on peut citer quelqu'un qui a été quand même un des fervents de cette transdisciplinarité, qui est Foucault. Et qui, pour moi en tout cas, est celui qui m'inspire, je dirais, le plus sur la question du terrain, puisque en fait, il a créé ce concept de reportage d'idées, faisant une espèce de mixte entre la question journalistique, cette fois le terrain pris dans son sens journalistique, et la question philosophique. Mais on peut dire aussi que Marx, quand il produit un questionnaire à destination des ouvriers, un questionnaire de 100 questions, et un questionnaire dans lequel il leur dit « Vous n'êtes pas obligé de répondre à tout, vous choisissez les questions que vous voulez. C'est vous qui êtes maître du jeu. » C'est une manière d'orienter finalement la philosophie vers la question du terrain, et Engels va aller faire du terrain précisément en quartier populaire à Londres et dans le prolétariat anglais. Donc voilà, il y a toute une histoire du terrain, et puis il y a évidemment une philosophe très importante sur cette question-là, qui est Simone Veil, qui est allée faire elle-même un terrain dans le monde ouvrier, et un terrain en tant qu'ouvrière.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Merci, très intéressant. En fait, on a ce terme qui vient de la dimension, cette dimension militaire, des sciences sociales, après de l'ethnographie, que tu as défini terme presque impur et extra-philosophique, qui pousse la philosophie sur le sens. On revient sur la question des marges, en fait. Et Christian, tu écris aussi dans tes textes que la réimportation de la violence coloniale sur les terrains métropolitains fait partie intégrante de la tradition française et républicaine. Ou encore, je cite, que la gestion militaire de l'espace public colonial autorise la militarisation de l'espace public métropolitain qui en dépend pour son impérialisme économique. C'est ça que tu vises à montrer à travers ces deux mots que tu utilises dans tes textes, ces deux mots de périphérie et d'un côté et cœur de l'autre côté. Ce sont deux mots opposés en tension. Et car ta réflexion me semble reposer vraiment sur une sorte d'oxymore avec cette tension toujours présente. Comment tu vois ce rapport entre ces deux mots?
Entre cœur et périphérie?
Oui.
Alors, c'est extrêmement important comme question parce que... Alors, tu parlais justement de la question postcoloniale. Tout le concept de l'espace républicain, démocratique, tel qu'il s'origine à partir finalement du XVIIe siècle, tout ce concept-là... Je parle évidemment de la modernité de ce concept, hein. Je ne parle pas du tout de la période antique, hein, où c'est une toute autre conception de la République, mais dans la modernité, au moment même où se crée une dissociation vis-à-vis de la pensée monarchiste, et en tout cas de la monarchie absolue, ce moment-là, où se revendique la liberté par rapport à un pouvoir politique oppressif, ce moment-là est précisément le moment où se crée l'espace colonial. Et en particulier, il y a un ouvrage que je trouve extrêmement éclairant là-dessus, c'est l'ouvrage que Mathieu Renaud a consacré à Locke, à la figure du philosophe Locke, en montrant comment Locke défend en effet une pensée de la liberté, sur le plan des lois, sur le plan du rapport à un risque de tyrannie politique, dans le temps même où il défend la nécessité non seulement d'un espace colonial, mais de la traite des Noirs. Donc, il y a là une véritable dissociation. Et au moment où se crée un concept universel de l'humanité, dans le même temps, se crée sa dissociation. Ça, c'est une contradiction totalement fondamentale. Elle peut d'autant mieux s'exprimer que finalement, l'espace colonial est un espace lointain auquel les gens des métropoles n'ont pas affaire. Peu de gens vont avoir affaire directement à cette colonialité, si ce n'est, comme le dirait Voltaire, c'est à ce prix-là que vous mangez du sucre en Europe. Voilà. Mais ça, c'est une formule très juste, d'ailleurs. Mais c'est une formule qui met en évidence, justement, cette dissociation. Ce qui va se passer au moment de la décolonisation est quelque chose qui est à cet égard extrêmement pervers. Il y a à la fois une indépendance et revendiquée et finalement qui va se réaliser, en tout cas politiquement, des espaces coloniaux. Donc c'est une défaite des pays colonisateurs. Et en particulier, on peut le dire en France, pour la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie se termine par une défaite de la France. Mais cette défaite va s'accompagner de processus de corruption, de processus de la part même des dirigeants politiques des pays décolonisés, de processus de trahison. Et de trahison de l'intention démocratique elle-même. Et ceux qui vont défendre ces intentions démocratiques dans les anciens espaces coloniaux vont être exterminés. On pense évidemment au cas Lumumba au Congo. Et ça, c'était en 61, mais on a, en 1987, Thomas Sankara, effectivement, au Burkina Faso. Et puis, et actuellement, et toujours. C'est-à-dire que ces espaces décolonisés ne vont pas du tout devenir des espaces de modèle démocratique, mais au contraire, des espaces qui, finalement, réinstaurent les formes de la violence coloniale vis-à-vis de leur propre population. Et ça, c'est quelque chose qui avait été anticipé par Abdelmalek Sayad et par Bourdieu quand ils ont écrit leur livre sur le déracinement. Ils ont écrit ce livre au moment précisément où la guerre d'Algérie venait de se terminer. Et là, ils écrivent, mais attention, que les dirigeants maintenant de ces pays décolonisés assument une responsabilité démocratique à l'égard de leur population, parce que sinon, il risque d'y avoir une reproduction de la violence coloniale par les décolonisés eux-mêmes. Et ce qui se passe à partir de là, c'est que précisément à partir du moment où cet espace démocratique n'est pas respecté, il va y avoir des clivages de classe énormes. Et quel va en être le résultat? Tout simplement, l'émigration. Donc des gens dont les pays ont été décolonisés vont être amenés à quitter leur propre pays, et chose plus perverse encore, pour venir se faire engager sur les territoires des anciennes colonies. Ça, c'est ce qui se passe actuellement dans les quartiers populaires.
Et cette dynamique dont tu parles, cette dynamique de retour aussi, me rappelle un texte inaugural et fondamental des mouvements anticoloniaux, les discours sur le colonialisme du penseur martiniquais Aimé Césaire. Et Césaire y évoque précisément cet effet boomerang. La violence exercée dans les colonies parce qu'elle est territorialisée, justement externalisée et donc légitimée, finit par revenir au cœur. C'est là on revient sur cette tension entre périphérie et cœur. Revenir au cœur de l'Europe. Et tu te réfères d'ailleurs explicitement à ce texte. Et tu écris par exemple que la question de droit ne peut s'établir qu'sur ce que tu disais précisément, sur la dissociation territoriale. La séparation de fait de l'espace colonial, sa distance à l'égard de l'espace métropolitain, est une condition nécessaire de son usage comme espace d'exception. Une égalité radicale peut se déployer, tandis que les principes d'égalité républicaine continuent d'être affirmés en métropole. Et il me semble donc, dans cette perspective, il me semble que ton travail, en soulignant cette dissociation, apporte ici un éclairage essentiel sur la question du visible et sur les politiques aussi des visibilités qui lui sont associées. La marge, mais aussi les processus qui la produit en tant que marge, justement. Rêvait-elle, ça c'est ma question, rêvait-elle de l'invisibilisation ou devient-elle au contraire un espace rendu hyper visible? Il me semble ce que tu proposes en fait. C'est-à-dire constamment surveillée et exposée au regard du dispositif policier.
Oui, tu soulignes très bien effectivement ce paradoxe. Hein. C'est-à-dire les quartiers populaires vont se créer en fait pour renvoyer vers la marge des populations qu'on ne veut pas voir et qui pourtant sont là. Donc, il va y avoir dans les années 70, c'est autour des années 70 que ça se noue, parce qu'on a fait venir dans les années 50 pour la reconstruction des travailleurs depuis effectivement les anciens pays colonisés. Donc, on les fait venir sur le territoire français. En particulier, ils vont être, j'allais dire, agglomérés, parqués dans des bidonvilles, le bidonville de Nanterre notamment. Mais ensuite, cette population-là, elle va aussi, finalement, à un certain moment, bénéficier de ce qu'on appelle un rapprochement familial. Donc des familles vont venir. Et donc, il va y avoir une politique extrêmement ambivalente, qui est à la fois une politique quelque part de ségrégation, et en même temps un discours qui est le discours républicain de, entre guillemets, l'intégration. Et ça va produire des effets en termes urbanistiques. Donc, les bidonvilles en tant que telles vont, en tout cas, très largement disparaître pour être remplacées par des espaces HLM dans des quartiers populaires. Autrement dit, il n'y aura pas du tout de mixité de la population. Et non seulement cela, mais alors que les autres catégories de population sont amenées à donner leur avis sur les politiques publiques, en particulier sur les politiques d'urbanisation, eh bien dans ces quartiers-là, la population de ces quartiers ne sera pas considérée comme apte à donner, à entrer dans la délibération commune. Elle ne sera pas un sujet du devenir social et politique de ces quartiers, elle va en devenir un objet. Et c'est l'une des problématiques majeures actuellement des quartiers populaires. Si on en restait là, on serait dans une véritable catastrophe. Mais il se trouve précisément que ces personnes qu'on veut renvoyer à la marge ou à la passivité sont au contraire des personnes qui revendiquent une véritable activité et une véritable présence dans l'espace social.
Merci Christiane. Justement, ces questions de marge et du visible et invisible, et c'est qu'on va discuter aussi après la pause musicale. Et merci encore.
J'y parie, il est tard. Le bitume reflète les phares au bas du thermostat en bronze à la carte postale. Longtemps pendant mon jeune âge, je pensais que l'usine faisait les nuages. L'eau potable est-elle cancéreuse? Les nuits d'hôpital deviendraient coûteuses. Ils disent qu'en ville on n'aime pas parler, qu'ils viennent vivre à 1000 mètres carrés, chacun son cube, y vieillir dans les tentacules de la solitude. Soleil du Nord, soleil du Nord, soleil du Nord, quant au deuxième semestre, le mauvais temps insiste et le clown sous des fenêtres. Encore un jour sans ombre quand l'astre est à son zénith. Ma ville, un tissu cousu de périphérique. Le printemps nous transforme en sauvages. Au premier rayon, on plonge sans plage. On attend l'été pour s'entasser chez les autres. Ces gens du sud à lac sont chauds. On ne partage pas les mêmes horizons. Pour vivre les vôtres, nous cotisons. Je voudrais vous y voir à courir les bidonvilles, rêvant de tours d'ivoire où élever ta fille. Soleil du Nord, soleil du Nord. Famille nombreuse avec un seul salaire, c'est voir la mer à 20 ans, 19 étés de galère. We'll be right back. raison. 40 ans de crédit, la belle maison. Chaque semaine grossit le jackpot, les temps durcissent. Les copains n'ont plus de clopes, coincés dans d'horribles jeans. Entre l'avenir et nos origines, au fond ça va dans l'hexagone. On cherche les ficelles, tire sur la corde, on se passe de conseils. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Rebonjour à toutes et à tous. Ici Laura Moscarelli. Je suis avec ma collègue et amie Lorena Grigoletto. Nous sommes sur Radio Allegre FM 93.1. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition de Philosophie au présent dédiée au thème de la ville, ses centres, ses marges, ses interstices. Nous sommes en direct ce samedi 9 mai. Il est 16h33. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Christiane Voller et Emmanuel Sibeud. Maintenant, c'est le moment pour moi d'interviewer Emmanuel Sibeud. Mais avant de vous interviewer, Emmanuel, je vais vous présenter. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 8 et membre de l'unité mixte de recherche, institutions et dynamique historique de l'économie et de la société, où votre enseignement et vos recherches éclairent depuis plus de 20 ans, les dynamiques des sociétés coloniales et les héritages impériaux. Normalienne, agrégée d'histoire, formée à l'EHESS, vous consacrez vos recherches à l'étude de la production des savoirs en situation coloniale, aux réseaux intellectuels impérieux et transimpérieux, mais aussi aux logiques des racialisations et à l'histoire sociale du racisme au XXe siècle. Vos travaux, à la fois critiques et engagés, interroge notamment les pratiques humanitaires dans les empires et les défis de la décolonisation des savoirs, des thèmes qui résonnent fortement dans les débats publics actuels. À Paris 8, vous avez dirigé les départements d'histoire et les masters passé-présent, un programme reflétant votre engagement pour une histoire attentive aux enjeux de mémoire et d'écriture plurielle de l'histoire. Depuis 2024, vous dirigez l'équipe locale de l'I2EES, laboratoire qui s'intéresse entre autres au patrimoine dans les dimensions concrètes et symboliques, à leur transmission et à leur contestation. Votre expertise dépasse largement les cadres universitaires via des collaborations avec les musées nationaux de l'histoire de l'immigration, l'association Alternative ou encore par la création d'un site dédié au statut colonial contesté, Casting Stone, gravé dans le marbre. Le séminaire que vous animez avec l'historienne Julie Marquet, des statuts pour mémoire, colonialisme et espace public, s'inscrit explicitement dans les réflexions internationales sur la mémoire coloniale et la gestion des patrimoines controversés. Vous participez par ailleurs à des projets qui explorent de nouvelles façons d'interpréter et de partager les archives écrites et monumentales du colonialisme. Sur les archives écrites, les projets COUNT, statistiques coloniales en Afrique, ou les projets ARIE, archives coloniales inclusives. Sur les monuments, les projets Détricoter les pouvoirs monumentaux, une exploration des contre-monuments, et les projets Trajectoire décoloniale dans le cadre du programme Hermès sur les patrimoines en devenir. Tous ces projets collectifs témoignent aussi de votre volonté de lire recherche et action publique. De lier recherche et action publique. Encore merci d'être avec nous pour partager votre analyse sur ces questions essentielles qui traversent à la fois l'histoire et notre actualité. J'ai tout de suite une question pour vous, Emmanuel. Et lisons vos travaux sur les monuments coloniaux, comme par exemple Revoir Gallieni dans la revue Mémoire en jeu ou Jean-Baptiste Marchand, héros colonial amovible, dans les dossiers de la revue Homme et Migration consacrée à l'histoire du palais de la Porte Dorée, tous deux de 2024. nous voyons comment ces symboles, souvent situés au cœur des villes, cristallisent des rapports de pouvoir entre centre et marge. Leur contestation, leur déplacement ou leur disparition à Paris révèlent des tensions entre mémoire officielle et mémoire marginalisée. Comment donc leur présence ou bien leur effacement redessine-t-elle les dynamiques des pouvoirs dans l'espace urbain?
Merci Laura, merci Lorena pour votre invitation et merci pour cette présentation. Alors en fait, je voudrais présenter peut-être un peu le projet gravé dans le marbre ou cast in stone que j'ai dirigé avec l'historienne Julie Marquet. En 2020, la contestation des statues colonialistes, c'est-à-dire des statues qui célèbrent le colonialisme et des statues qui célèbrent aussi des esclavagistes, à Paris comme un peu partout dans le monde, ces contestations, elles ont pris des formes assez différentes, nous ont rappelé en fait qu'on vivait au milieu de ces statues. Et c'est vrai que tout d'un coup, on s'est réveillé, on les a regardées, c'était pour ça que j'avais parlé de regarder à nouveau Gallieni, et on a eu l'impression assez fausse d'ailleurs, d'être cerné par ce type de monuments, qui sont des monuments en fait qu'on ne regarde pas. La formule de Paul Venn est parfaitement juste par rapport à ça. C'est des monuments qu'on ne regarde pas et dont on peut se demander s'ils ont été faits pour être vus. Le projet qu'on a mené avec Julie Marquet, gravé dans le marbre, en fait, il s'est appuyé sur ce sentiment, cette impression, cette émotion collective aussi, et sur le fait que cette émotion, elle a fait jaillir des nouveaux discours. On a posé des mots nouveaux, on a posé des discours et des enjeux nouveaux, en fait, sur ces statues. Donc, on les a réveillés quelque part. Et les deux questions qui nous importaient dans ce projet et qu'on a cherché à explorer, c'était qu'est-ce que c'est que cette culture visuelle qui a été élaborée par le colonialisme, comment elle a été élaborée, à quel moment, par qui, comment ça fonctionne, tout ça. Et surtout, l'autre question qui nous importait encore plus, c'était mais qui a regardé ces statues, qui est-ce qu'elles ont impressionné, quelles ont été les réactions par rapport à ces statues. Et vraiment, ce projet, ce sont les contestations qui nous ont ouvert la voie. C'est-à-dire que pour les historiens, c'est toujours le plus difficile de savoir comment une œuvre ou comment un monument est reçu. Et là, les contestations nous permettaient de partir directement en fait, sur la réception. Alors, volontairement, on est parti des statues qui avaient été contestées en 2020. Et on a essayé de trouver toutes celles qui avaient été contestées dans l'espace français, Hexagone et Outre-mer. On en a trouvé une petite cinquantaine, pas tellement plus. Alors, il est possible qu'on n'en ait pas vu, hein, parce qu'il y a eu toutes sortes de contestations. Et on a essayé de faire la biographie de chacun des monuments contestés et d'aller discuter aussi avec les gens qui les avaient contestés pour savoir ce qu'ils disaient en fait sur ces monuments. On avait décidé de travailler sur les statues colonialistes et on donnait un contenu assez précis à cette catégorie, c'est-à-dire ce sont des statues représentant des personnes réelles qui ont existé, des hommes, il y a une ou deux femmes, mais vraiment il n'y en a pas beaucoup, qui sont des personnes qui ont été fortement impliquées dans la colonisation parce qu'elles ont fait leur carrière dans les territoires colonisés ou parce qu'elles ont participé à l'élaboration de la politique coloniale. Donc on a constitué en fait un petit échantillon, qui n'est pas un gros échantillon, mais qui est un premier fil qu'on a commencé à tirer pour accéder à cette culture visuelle du colonialisme. Alors pour revenir à votre question, évidemment, ça nous a tout de suite posé la question de la cartographie. Où est-ce qu'on trouve ces statues? Alors je vais revenir un petit peu sur le cas de Paris, parce que le cas de Paris est important et intéressant. Et là, je vais parler de toutes les statues colonialistes, pas seulement celles qui ont été contestées, qui sont pas en très grand nombre à Paris. En réalité, à Paris, il y a à peu près 500 statues dans l'espace public qui représentent des personnes. On ne compte pas les allégories, on ne compte pas celles qui sont collées sur les monuments. Et sur ces 500 statues, il n'y en a que 30 à peu près qui sont des statues colonialistes. Ça fait 6%, c'est pas tant que ça en fait. Alors ça, c'est le premier constat qu'on a fait. Deuxième constat, ces statues, elles ne sont pas à la place d'honneur. Elles sont rarement dans des emplacements centraux. Elles sont plutôt dans les marges, effectivement, et c'est intéressant d'aller voir pourquoi elles sont dans les marges. Et je vais vous parler tout de suite d'une statue qui, elle, est dans un lieu assez central, qui est le monument à Gallieni. Et troisième constat qu'on a fait, c'est qu'en fait, ces statues, elles n'étaient pas si anciennes que ça. La plupart, elles apparaissent après la Première Guerre mondiale. C'est à ce moment-là qu'on commence à les construire. Et à Paris, il y en a la moitié sur les 30, qui sont des statues qui ont été érigées dans un temps chronologiquement post-coloniales, puisqu'elles ont été érigées après 1960, ce qui est quand même extrêmement intéressant à analyser. Alors, sur le plan spatial, ce qu'on voit bien à Paris, c'est qu'en fait, il y a eu un choix qui a été fait assez rapidement, dès 1931, dès la préparation de l'exposition coloniale internationale de Paris. On a décidé qu'il y aurait un quartier où on allait en gros entasser les monuments colonialistes. Et c'est pas n'importe quel quartier, donc c'est le quartier autour du palais de la Porte Dorée, l'ex-palais des colonies. Et c'est un quartier populaire, c'est un quartier qui est créé à ce moment-là, comme si les monuments colonialistes, c'était pour faire la leçon, en fait, aux classes populaires, plutôt qu'aux autres classes, aux classes moyennes ou aux classes dominantes, qui ont moins besoin parce qu'elles ont un accès plus direct aussi à tout ce qui concerne la colonisation. D'autre part, ce qu'on peut constater aussi sur le plan spatial, c'est qu'il y a des statues qui sont disséminées dans Paris, et en particulier dans le quartier des Invalides, qui est le quartier par excellence de la gloire militaire. Il y a des généraux colonialistes, effectivement. Mais ces généraux colonialistes, soit on les représente sans rappeler les éléments de leur carrière coloniale, soit on a gommé ensuite les éléments de leur carrière coloniale. Donc on a du colonial sous les yeux, sans savoir que c'est du colonial. Et ça, c'est vraiment très caractéristique. Et je pourrais ajouter qu'il y a plein de statues qu'on devrait basculer dans la catégorie des statues colonialistes. La statue de Clémenceau, par exemple, on peut considérer que c'est une statue colonialiste. C'est quelqu'un qui, comme tous les présidents du Conseil à ce moment-là, jouait un rôle dans les colonies. Alors, juste un mot sur le monument Gallieni. Le monument Gallieni, il est très intéressant parce que, alors Gallieni a eu une carrière coloniale, il a fait absolument toutes les guerres coloniales à partir des années 1880. Il a été assez longtemps le gouverneur général de Madagascar. Et en 1914, il est chef de l'état-major déjà, et c'est lui qui est gouverneur militaire de Paris, et c'est lui qui arrive à contrer la première offensive et à gagner la première bataille de la Marne en 1914, donc il est le sauveur des Parisiens, et en fait, il a une réelle popularité, d'autant plus qu'il meurt assez rapidement, on lui donne le titre de maréchal à titre posthume, donc c'est quelqu'un qui a une vraie popularité, et on décide d'en faire le premier maréchal de la Première Guerre mondiale, on a recréé ce titre à ce moment-là, auquel on érige un monument. Ce qui est déjà une question compliquée, puisqu'on est en train de faire des monuments aux morts, mais qui sont des monuments aux morts collectifs. Et en même temps, on a des maréchaux auxquels il faut bien accorder une statue sans retomber dans les excès napoléoniens en termes de statut de maréchaux. Donc c'est une question assez compliquée. On choisit Gallieni, on le met en place centrale. On le met en fait devant les Invalides. On choisit aussi de faire un monument où il est porté par quatre cariatides qui représentent les quatre territoires où il a joué un rôle important en tant que colonisateur. Et c'est une statue qui personnifie, qui incarne en fait la hiérarchie des races, la hiérarchie coloniale des races. Donc on met cette statue donc en 1926 et rien ne marche en fait avec cette statue. D'abord, les contemporains disent qu'elle est absolument horrible et de fait elle n'est pas très belle. Et ils sont absolument furieux qu'elle soit mise au centre de l'esplanade des Invalides qui est déjà classée pour que justement on n'y mette rien. Et très rapidement, en fait, dans les 10 années qui suivent, à l'occasion de l'exposition universelle de 1937, on décide de la changer de place et on l'envoie en fait de l'autre côté des Invalides pour qu'elle se voit un peu moins. Donc ça, c'est intéressant. Alors, je ne suis pas en train de dire, et je vais peut-être m'arrêter là-dessus, je ne suis pas en train de dire que c'est des statues finalement qui seraient anodines. Et ce sont des statues qui incarnent la violence coloniale, toujours, et qui en général sont des statues aussi qui parlent du racisme et qui invitent à penser la hiérarchie raciale coloniale comme quelque chose d'évident. Mais vous voyez que ce n'est pas des statues qui sont toujours très réussies, très regardées et très acceptées. Donc la question, c'est de quoi en fait on hérite avec ces statues. Et l'autre conclusion, l'autre réponse que je peux apporter à votre question, c'est qu'il y a évidemment un rapport de classe dans les lieux où on décide d'implanter les monuments. Alors, on le voit de façon évidente à Paris. Il faudrait faire l'enquête, plus qu'on a pu la faire sur ce projet qui était très court en 2 ans, dans d'autres villes en France et aussi dans les territoires ultramarins où ça se joue différemment.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Vous proposez de décommémorer ces monuments plutôt que de les effacer en les transformant en support de réflexion critique. En quoi cette approche permet-elle de révéler les interstices de l'histoire coloniale, ces espaces de résistance, de négociation ou d'oubli et de les rendre visibles dans la ville?
Alors, En fait, cette notion de décommémoration, je l'emprunte à un ouvrage important qui est paru en 2024, qui s'intitulait « Décommémorer » et qui a été dirigé par Sarah Gensburger et Jenny Wurstenberg, qui faisait un peu le tour du monde des contestations depuis 2015, et qui montrait qu'en réalité, commémoration et décommémoration, c'est-à-dire le moment où on érige une statue, le moment où on décide qu'en fait, elle n'est plus en accord avec l'espace public, ou elle n'est plus en accord avec l'opinion publique, il faut la retirer, il faut la transformer, ou il faut faire autre chose avec elle. Elle montre comment commémoration, décommémoration, c'est vraiment les deux phases, en fait, des logiques de mémorialisation collective, et ça, c'est important. Alors, commémoration, le mot est une évidence maintenant. En France, ça fait quand même 50 ans à peu près qu'on fait de la commémoration à tout va et dans tous les sens. Des commémorations, par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est un mot qui, tout à coup, a fait scandale en 2020. Il ne faisait pas scandale dans les années 90 ou 2000, quand on a vu tous les pays de l'ex-bloc de l'Est en Europe enlever un certain nombre de statues, en fait. Et il ne faisait pas scandale non plus dans les années 60 ou 70, quand un certain nombre de statues colonialistes, elles aussi, ont été retirés dans les pays qui avaient acquis leur indépendance. Et tout d'un coup, on nous a expliqué que c'était impossible. Il y a eu une dramatisation très forte et très politique, en fait, de ce terme qui est apparu. Alors, je voudrais développer un autre cas qui est le cas du monument à la Mission Marchand, qui est aussi un monument parisien, pour montrer, en fait, ce qui se joue dans ces histoires de décommémoration et pour dépasser cette impasse en montrant qu'on n'a rien de dramatique. La Mission Marchand, c'est une de ces expéditions militaires de la fin des années 90. Elle se joue entre 1896 et 1898. Elle traverse l'Afrique du Gabon jusqu'au Soudan du Sud actuel et elle aboutit à Fashoda ou Kodok. Et c'est là où le colonel Marchand, qui dirige cette mission, fait semblant de s'opposer à l'armée britannique qui est en train d'arriver depuis l'Égypte. Et donc c'est un grand moment de nationalisme, de patriotisme, etc. C'est hyper médiatisé, cette affaire-là, dans la presse française, dans la presse britannique. Donc c'est vraiment un moment colonial important et un moment de lien entre le colonialisme et le nationalisme. À la mort de Marchand en 1934, on décide qu'il faut lui faire un gros monument parce que c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qui a travaillé parce que ça a été très médiatisé et que ça a continué, en particulier dans les publications pour enfants. C'est vraiment un récit qui a été repris de façon constante. Alors, on décide de lui faire un gros monument, de faire un monument à la mission, donc de montrer ce petit groupe d'Européens, ils sont une quinzaine, plus les 150 et quelques soldats, les tirailleurs africains qui les accompagnent et les centaines de porteurs aussi qui les accompagnent. Donc c'est de les montrer en train de marcher, de traverser l'Afrique, ce qui est une façon de montrer qu'on s'est approprié l'Afrique, bien sûr. Alors c'est aussi l'occasion de corriger un raté de l'exposition de 1931. En 1931, face au palais des colonies, on a mis un monument, qui est le monument à la gloire de l'expansion coloniale. Sauf que ce monument, il n'est pas très réussi. On ne savait pas où le mettre. On l'a tiré du jardin d'agronomie tropicale et puis ensuite on l'a renvoyé là-bas. Et surtout, c'est un monument allégorique. Et dans les années 30, on estime que ça ne va pas du tout avec le colonialisme, qui est une idéologie virile. Alors, ce monument, il est intéressant parce qu'il a été construit en plus de 10 ans, entre 1939 et 1949, parce qu'il y avait un problème de financement. Le problème des statuts colonialistes, c'est qu'il y a on fait des appels à souscription, on fait marcher la machine aussi de l'idéologie, de la propagande coloniale, sauf que ça ne marche pas. Les gens ne donnent pas d'argent pour ces statuts-là. Et donc, on décide qu'on va retirer le monument à l'expansion coloniale, qui est retourné au jardin d'agronomie tropicale, où vous pouvez aller le voir. En fait, il y a des bouts qui sont perdus dans la végétation. C'est peut-être une des portes de sortie pour nos monuments colonialistes. Et on installe cette statue. Alors, cette statue, elle représente la troupe en marche, et il y a une grande statue, elle fait 4 mètres de haut, une fois et demie les autres, de Marchand qui est face aux spectateurs, les bras croisés dans une attitude martiale et qui est un peu impressionnant. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en 1983, il y a eu un attentat à l'explosif contre cette statue par l'Alliance révolutionnaire Caraïbe. C'est une histoire qui est assez bien connue. Et alors, c'était un attentat, en fait, contre le musée en face, qui était devenu depuis 1960 le musée des arts d'Afrique et d'Océanie. Mais pour l'Alliance révolutionnaire Caraïbe, c'était toujours ce musée le symbole cynique de l'exploitation et du pillage. Donc, c'était difficile d'aller mettre des explosifs au pied du musée, on les a mis au pied du monument en face. L'explosion a surtout cassé la statue de Marchand. Ce qui est très intéressant, c'est que le service de conservation des monuments de la ville de Paris décide que la statue est cassée, on pourrait très bien la remettre, mais en fait, on ne va pas la remettre. Parce que si on l'enlève, on change le sens du monument et ça devient un peu plus conforme avec l'idée qu'on se fait de la colonisation, c'est-à-dire qu'on voit une troupe d'Européens et d'Africains, et finalement, ça peut presque être à peu près consensuel. Donc là, si vous voulez, il y a vraiment quelque chose de très intéressant. L'autre chose intéressante autour de ce monument, c'est que, en fait, ce monument, depuis très longtemps, depuis les années 50, il est devenu un support de contestation. Chaque fois que quelqu'un veut mettre en avant un slogan anticolonialiste, c'est sur ce monument qu'on va inscrire les slogans. Alors, ce qui a changé en 2020, c'est que c'est plus le seul support, mais vous voyez comment, enfin, autour de ce monument, on a une histoire en fait de décolonisation de ce monument, de décolonisation, je ne sais pas trop par qui elle a été faite, parce que les slogans anticolonialistes sont toujours anonymes, mais elle existe bel et bien, et on peut continuer dans ce sens-là. Ce qui fait que, personnellement, je plaide contre son déboulonnement. Par contre, ce qui ne va pas, et ça ne va vraiment pas depuis 2020, c'est qu'on ne peut pas avoir ce type de monuments qui portent un message qui est un message quand même assez violent, qui est un message de domination, d'appropriation, sans rien dire sur ces monuments. Il n'y a pas de mots, il n'y a aucun cartel, il n'y a pas évidemment de cartel, mais il n'y a aucune plaque qui dit ce que c'est que ce monument. Et ça, c'est plus possible depuis le 2020, parce que depuis 2020, dans la société, on voit apparaître des groupes qui veulent raconter d'autres histoires autour de ces monuments.
Emmanuel Sibad, merci. Et vous voulez dire un mot sur les archives, ces projets Conte ou Arié? En quoi ces initiatives permettent-elles de recentrer les marges? Quel outil concret propose-t-elle pour repenser la situation postcoloniale? Vous avez une minute.
Une minute. Très peu de temps. Alors, je dirais simplement que le gros problème, évidemment, quand on est historien ou historienne du colonialisme, c'est qu'on a des archives asymétriques. On a surtout les archives du pouvoir colonial. On n'a pas que ça. Parce que, vraiment, à partir des années 50 et jusqu'aux années 80, il y a eu énormément d'autobiographies, de biographies, de récits de vie qui ont été collectées volontairement pour avoir d'autres archives. Et du coup, bon, là, c'est fini cette collecte. Et il faut trouver, en fait, d'autres façons de faire parler les archives. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on s'est intéressé à la question des statistiques, parce que c'est très difficile à produire les statistiques. Et il faut toujours beaucoup de conventions, comme le disait Alain Desrosières, pour produire des statistiques. Or, les conventions, ça se négocie forcément à plusieurs. Et en plus, si on ne parle pas aux sujets coloniaux, qui en général font eux-mêmes les enquêtes de terrain, ce n'est pas possible. Donc, allez regarder ce qui se passe, en fait, quelles sont les conventions qui ont été négociées, comment ça s'est passé pour construire des chiffres qui en général sont faux et plein de trous. C'est extrêmement intéressant. C'est comme ça, en fait, qu'on peut de nouveau faire parler autrement les archives, ce qui est une grande préoccupation des historiens et des historiennes de la colonisation à l'heure actuelle.
Merci infiniment, Emmanuel Sibod. Ce fut un plaisir de vous écouter, de vous avoir parmi nous aujourd'hui.
Et nous arrivons donc presque à la fin de cette émission de Philosophie au présent, de samedi 9 mai, au cours de laquelle nous avons eu le plaisir d'accueillir Christian Voller et Emmanuel Sibod, pour traiter les thèmes de la ville et surtout à partir de ses marges. Et justement, ces marges m'ont fait penser, m'ont rappelé d'un texte. Je voudrais partager cette réflexion avec vous. M'ont rappelé du texte du paysagiste français Gilles Clément, qui en 2004 publiait le Manifeste du tiers-paysage. Et ce manifeste, ce texte bouleversé pas seulement la signification du paysage, mais aussi la signification des marges. Dans ces cas-ci, pas des marges humaines, mais des marges végétales. Qu'est-ce que le tiers-paysage? Le tiers-paysage est constitué des lieux délaissés par l'homme, des friches, des terrains en attente, des espaces suspendus aux décisions politiques, où justement pousse la végétation. Et ces marges, c'est ça le point sur lequel Gilles Clément insistait, ces marges abritent donc une biodiversité non reconnue. Et c'est dans ce sens que le tiers paysage acquiert une dimension politique. Et c'est pour cela justement que ça s'appelle comme ça, tiers paysage. Car tiers, en effet, évoque le tiers état dont Emmanuel-Joseph Seyer écrivait dans son pamphlet du 1789. Qu'est-ce que le tiers-paysage, le tiers-État? Il écrivait, le tiers-État, c'est ce qui n'est rien encore, mais aspire à devenir quelque chose. Et dans ce sens, la pensée de Pascal, qu'on a mentionnée au début, trouve ici un écho. Ces formes de vie non humaines, ces marges, ces interstices urbains, cette infinité même de la ville, incarnent une image de résilience. Et aussi, vos réflexions, je pense surtout à ce que Emmanuel disait, m'ont fait réfléchir aussi sur la notion même de lieu. Je pensais en particulier à la notion de hyperlieu, de hyperlieu élaboré par le géographe français Michel Lussault, en tant que des lieux justement hyper signifiants, saturés de relations, d'expériences, et qui sont en effet, ce sont des théâtres des tensions à large échelle et en échelle globale. Et dans ce sens, je pensais aussi que ce sont ces contestations et ces performances artistiques. Et dans ce sens, je pense que vous partagez aussi c'est projeté aussi à l'art en tant qu'instrument de résilience et en tant qu'instrument de transformer justement la signification de ces lieux. C'est justement l'art, la contestation, les performances artistiques qui transforment ces lieux en les rendant des hyperlieux, je dirais.
Pour clore cette émission, cette belle émission consacrée à la ville, je voudrais souligner l'urgence de reconnaître ce que vos travaux, Christiane Voller et Emmanuel Sibaud, ont mis en lumière avec une clarté implacable, l'occultation du passé colonial n'est pas un oubli, mais un mécanisme actif de perpétuation des inégalités, que ce soit à travers l'histoire des savoirs ou par l'analyse des politiques publiques contemporaines, les dénis scientifiques, médiatiques ou politiques nourrit les systèmes d'exclusion qui structurent encore notre société. Vos recherches révèlent une articulation troublante entre la production des savoirs et leur application concrète. Les discours coloniaux, hier légitimés par la science ou les droits, trouvent aujourd'hui un écho dans les pratiques policières ou les choix urbanistiques, reproduisant des logiques de domination sous de nouvelles formes. Face à ces constats, les outils pour rendre visible cette mémoire refoulée existent. L'éducation, l'accès aux archives et surtout les mobilisations collectives qui peuvent transformer cette prise de conscience et levier de la justice sociale. Un immense merci à vous deux et un immense merci au Collège international de philosophie et à Radio Aligre.
Merci, nous tenons à rappeler aussi de soutenir la radio, cette belle radio libre. Merci à vous, à nos écouteurs et à vous deux.
Aligre FM 93.1.